Rob. 9h-10h, c'est arrivé demain.
Frédéric Taddeï sur Europe 1.
Bonjour, bon dimanche, déserts médicaux, hôpitaux en souffrance, personnel soignant démoralisé, tout cela ne date pas de l'épidémie de Covid. Et si l'État ne se souciait pas autant de notre santé qu'il le prétend, c'est la thèse de Pierre Menton dans son livre 2084, Pourquoi l'État joue avec votre santé. Il est mon premier invité ce matin en direct. Et puis on a un Français champion du monde d'échecs, Maxime Vachier-Lagrave, vient de détrôner Magnus Carlsen en remportant le championnat du monde de Blitz à Varsovie. Il va nous expliquer l'intérêt de ces parties ultra rapides, de plus en plus suivies par le public et de plus en plus jouées par les amateurs. Et l'on terminera l'émission avec Géraldine Maillet dans son nouveau roman Fran et Ava. Elle raconte une liaison amoureuse entre Ava Gardner et Françoise Sagan. Bonjour Pierre Menton.
Bonjour.
Vous êtes docteur en biologie, chercheur en santé publique à l'INSERM et vous venez de publier 2084, Pourquoi l'État joue avec votre santé chez Humaine Science. C'est vrai que notre système de soins n'est plus ce qu'il était, on le croyait le meilleur du monde, on n'en est plus tout à fait certain. La crise du Covid nous a ouvert les yeux. Plusieurs propositions de loi, par exemple, ont été déposées récemment pour lutter contre les déserts médicaux. Celle de Guillaume Garot, député socialiste de la Mayenne, sera présentée à l'Assemblée le 20 janvier prochain. Il voudrait obliger les jeunes médecins à s'installer pendant 3 ans dans un désert médical, pendant leur dernière année d'internat et les 2 années suivantes. Inutile de dire que les jeunes médecins ne voient pas ça d'un très bon œil. Il n'y a qu'avec ce genre de loi coercitive que l'on pourra réparer les dégâts causés à notre système de santé, à votre avis ?
Alors, un système de santé qui nous permet quand même encore de nous soigner sans nous ruiner, comme ça peut être le cas ailleurs, mais qui en effet se détériore à grande vitesse depuis maintenant plusieurs dizaines d'années. Alors, s'il se détériore, il se détériore pas tout seul. Hein. C'est très clairement le résultat d'une action délibérée de l'État. Donc j'espère on va pouvoir dire 2 mots. Alors, est-ce que le problème des déserts médicaux, la solution proposée d'imposer aux médecins de s'installer au début de leur carrière dans ces déserts-là est une solution? Je ne sais pas. En tout cas, la réaction des syndicats de médecins, malheureusement, montre quelque chose. C'est-à-dire que ça montre que leur préoccupation première n'est certainement pas la santé publique. Puisque lorsque les gens maintenant, comme c'est le cas dans plusieurs régions, ont du mal à trouver simplement un médecin traitant, bien évidemment, ils vont renoncer à un certain nombre de soins et ça va avoir des effets sur leur santé. De plus, la répartition des médecins, c'est un problème, mais ce n'est pas l'unique problème. Il y a aussi le nombre de médecins. Il n'y a pas assez de médecins. Et il faut bien voir que depuis plusieurs dizaines d'années, les syndicats de médecins en exercice ont fait une pression continuelle sur le gouvernement pour justement limiter le nombre de médecins. Alors pourquoi ? Évidemment, puisque moins vous avez de médecins, plus le revenu individuel par médecin est important. Donc là encore, on voit que la santé n'est pas vraiment, malheureusement, la préoccupation majeure. Alors, ils ont été entendus par les gouvernements successifs sur cette question. Alors, pour une raison simple, hein, c'est que l'État a toujours voulu, lui aussi, depuis plusieurs dizaines d'années, limiter le nombre de médecins. Pourquoi ? Pour limiter les remboursements des soins par la sécurité sociale. Le problème de fond, c'est la sécurité sociale. La sécurité sociale qui finance à la fois l'hôpital et les soins dispensés en médecine libérale. Alors, d'où vient l'argent de la sécurité sociale ? Elle vient des cotisations patronales et salariales. Donc, c'est ce qui représente la différence entre le salaire net et le salaire brut. Or, ça, pour les entreprises, c'est donc un coût. Et pour augmenter les profits, il faut essayer de réduire ce coût. Et l'État, qui a toujours aidé les entreprises, c'est ce qu'il fait depuis plusieurs dizaines d'années, en réduisant de manière continuelle ses cotisations patronales et salariales, et donc en réduisant de fait le budget de la sécurité sociale, ce qui, de fait, donc, aboutit au problème qu'on trouve à l'hôpital, hein, par exemple, parce qu'il n'y a pas que la médecine libérale. L'hôpital, on le voit effectivement là, les capacités d'accueil sont de plus en plus réduites, mais pas seulement en réanimation, dans plein de services différents, même aux urgences. Vous avez maintenant des urgences qui, régulièrement en France, ferment pendant la nuit, voire pendant plusieurs jours, par manque de personnel. Donc, on voit dans tout ça, si vous voulez, que la santé, elle ne fait pas partie de l'équation, quoi.
Oui, ce que vous dites dans votre livre, c'est que l'État ne soucie pas tant de notre santé qu'il le prétend, quels que soient ceux qui nous dirigent. Hein. Et pourtant, au début de la crise du Covid, l'État n'a pas hésité à mettre l'économie à l'arrêt pour freiner l'épidémie et réduire au maximum le nombre de morts. C'était la première fois que l'on prenait des mesures pareilles.
Oui, je peux redire un dernier mot sur le système de soins, parce que là encore, ça montre aussi la préoccupation de l'État, qui n'est pas du tout la santé. Dans les établissements de santé, hein, comme dans beaucoup d'entreprises, les conditions de travail sont déplorables. Hein. Ce qui d'ailleurs explique aussi la désaffection d'un certain nombre de personnes pour ces professions. Alors, quelle est la réaction de l'État face à des conditions de travail difficiles, hein, et en particulier donc dans les établissements de santé? Eh bien, on le voit, une diminution des médecins du travail et des inspecteurs du travail, hein, qui étaient déjà en nombre très réduit, diminution continuelle, hein, une disparition des comités d'hygiène et de sécurité de conditions de travail, qui eux aussi étaient peu nombreux, mais qui jouaient un rôle très important pour essayer d'améliorer les conditions de travail. Conditions de travail qui sont un déterminant majeur de la santé des gens, hein. Donc là aussi, c'est vraiment l'illustration parfaite, hein, que la santé n'est pas du tout l'objectif poursuivi.
Mais alors, le Covid.
Alors, pour l'épidémie de Covid, effectivement, soudainement, et comme vous le dites, c'est une première, soudainement, un État qui semble se préoccuper de la santé de la population, et qu'il dit d'ailleurs, la priorité, c'est la sauvegarde de la santé, sauver des vies, etc. etc. Alors, là, si vous voulez, c'est un discours, moi, qui m'insupporte, puisque tout ce qu'on peut observer de l'action de l'État, donc on vient de le dire sur le système de santé, mais j'espère qu'on dira un mot sur sa gestion des grands problèmes de santé publique, montre que, en fait, la santé n'est pas et n'a jamais été une priorité pour l'État. Donc si à un moment donné, comme c'est le cas pour cette épidémie, il semble que la santé devienne soudainement une priorité, moi, je pense que ce n'est pas crédible. Je pense qu'il y a d'autres raisons pour lesquelles l'État affirme que cette épidémie donc est un problème de santé et explique le volontarisme dont il fait preuve. Juste aussi, peut-être très vite, sur la gestion de cette épidémie. On voit, hein, dans les mesures qui sont prises, je parle de santé publique, hein, là. Est-ce que la santé est la boussole de tout ça? Des mesures qui ont un intérêt certain, la vaccination, qui sont non imposées, mais fortement suggérées, comme on le voit. Des mesures qui n'ont aucun intérêt, qui sont imposées, le port du masque en extérieur. Et des mesures qui ne sont pas appliquées ou très très partiellement et qui auraient un intérêt, comme par exemple l'installation de capteurs en CO2 dans les établissements scolaires. Donc tout ça, on voit bien, c'est un peu de la gesticulation, c'est pas la santé qui gouverne tout ça, quoi. On se demande d'ailleurs s'il y a vraiment une boussole d'ailleurs. Alors quand vous dites aussi on porte atteinte à l'économie, enfin on se rassure tout de suite, hein. L'État a aidé économiquement donc des petites aux grandes entreprises, tous les secteurs qui ont été touchés par sa gestion de l'épidémie, hein, sur le plan économique. Hein. Donc de ce côté-là, effectivement, même si c'était une première, ça ne s'est pas traduit par un naufrage de l'économie, hein, parce que là, tout a été fait pour éviter ce naufrage de l'économie, hein, par des aides appropriées.
Alors, on va faire une pause, Pierre Menneton, et puis vous nous direz, justement, alors qu'est-ce qui motive l'État, à votre avis ?
9h, 10h, c'est arrivé demain.
Avec Frédéric Taddeï sur Europe 1.
Nous sommes toujours avec Pierre Menneton qui publie 2084, pourquoi l'État joue avec votre santé. Votre thèse, Pierre Menneton, je le rappelle, c'est que l'État ne se préoccupe pas de notre santé autant qu'il le prétend. Pourtant, avant même l'épidémie de Covid, on a reproché à l'État de vouloir trop nous protéger, y compris contre nous-mêmes, en réduisant la vitesse sur la route, en diabolisant l'alcool, la drogue et le tabac, en nous répétant qu'il fallait manger 5 fruits et légumes par jour. Dieu sait si l'on s'est indigné de cet hygiénisme rampant.
Alors pour l'État, c'est les consommateurs ou les usagers qui sont responsables de ce qui leur arrive. En effet, ils fument trop, ils boivent trop, ils conduisent mal, ils conduisent des véhicules diesel, ils ne mangent pas comme il faut. Bon, c'est clairement son discours. Par contre, il ne parle jamais des entreprises qui fabriquent et vendent les produits en cause. Hein. Donc, tabac, alcool, on pourrait parler des matériaux amiantés, plombés, les véhicules diesel, les pesticides, la malbouffe, etc. Là, par contre, il n'y a pas de responsable, quoi, hein. C'est ce que montre la gestion des crises de santé publique, hein, que je viens de citer, hein, depuis maintenant des dizaines d'années, et ça continue aujourd'hui. Hein. Un refus obstiné de réguler ces entreprises, donc très peu de textes de loi, appliquées toujours extrêmement tardivement, contournées à la moindre occasion, avec pratiquement aucun moyen pour les faire appliquer, humain ou technique. Et lorsqu'il y a des sanctions, des infractions qui sont constatées, des sanctions qui sont ridicules, quoi. Donc ça c'est, si vous voulez, c'est la démonstration formelle que la santé, ça n'a jamais été une priorité de l'État. Parce qu'il faut voir les conséquences de ces problèmes de santé publique. Hein. C'est les causes majeures de morbidité et de mortalité dans la population, à savoir les accidents cardiovasculaires et les cancers.
Mais attendez, je vous interromps, parce qu'effectivement, l'État ne s'en prend pas aux entreprises automobiles. Les entreprises automobiles, c'est très important en France, il y a beaucoup d'emplois. Mais
il s'en prend agroalimentaire,
il s'en prend aux conducteurs, il réduit la vitesse sur les routes.
Tout à fait. Donc, il s'en prend aux individus, donc aux consommateurs, aux individus, jamais aux entreprises. Et c'est là, si vous voulez, où la santé prend une importance particulière pour l'État. C'est un formidable prétexte pour pouvoir contrôler, surveiller et contrôler les individus. Si vous voulez, sous prétexte de chasser donc le drogué, le chauffard, mais aussi le terroriste ou le contaminant. Et maintenant, le non-vacciné, c'est une volonté affichée donc, de surveiller et de contrôler les individus. Alors, pourquoi si vous voulez, tout le monde le voit, avec des problèmes économiques qui vont être de plus en plus importants, hein, des problèmes environnementaux également, on va avoir des populations qui vont être de plus en plus remuantes, hein, parce que elles ont le tort d'être encore sensibles aux conditions matérielles de leur existence. Et donc, du coup, si vous voulez, pour l'État, ces problèmes de santé qui existent en effet, hein, mais sont un formidable prétexte pour pouvoir maintenir, si je puis dire, la laisse sur la population. Et il faut bien voir quand même que, si vous voulez, les quatre problèmes qu'on vient de citer, consommation de drogue, sécurité routière, terrorisme et épidémie de Covid, font l'objet d'une activité législative pratiquement continue. Hein, continue,
hein, ce sont des morts qui sont comptées dans les médias.
Absolument,
aussi.
Oui.
À la différence des morts du cancer ou des morts des maladies cardiovasculaires, tous les soirs au journal, on ne nous dit pas combien de gens sont morts du cancer.
Tout à fait.
Mais les autres, on nous le dit, et l'État, à votre avis, est sommé de réagir à ce moment-là?
Alors, c'est l'autre raison qui explique l'empressement de l'État à réagir à ce type de problème, qui ne sont pas les principales causes de morbidité et de mortalité dans la population. C'est en effet le rôle de tierce, et en l'occurrence des médias et de la communauté scientifique et médicale. Lorsqu'on se met en effet à égrener à un moment donné, soudainement, les malades et les morts liés à tel ou tel problème, matin, midi et soir, dans tous les journaux, pendant des semaines, il est bien évident que politiquement, il est impossible de ne rien faire. Donc effectivement, c'est aussi une raison pour laquelle les États, tout ce qu'on dit là, évidemment, n'a rien de spécifiquement français, se sont sentis, ne pouvaient pas ne rien faire. D'où, effectivement, cette surenchère et ce déchaînement de mesures, hein, alors plus ou moins, encore une fois, diverses, variées, et dont on voit, encore une fois, comme on l'a dit tout à l'heure, que la finalité n'est pas forcément la santé de la population. Mais bon, il faut faire quelque chose, quoi.
Résumer, juste pour bien comprendre votre raisonnement, Pierre Menneton, c'est qu'en fait, quand il y a des intérêts économiques importants, la santé passe après. C'est le cas de toutes les maladies cardiovasculaires ou des cancers. Quand en revanche, il y a un certain nombre de morts qui, eux, peuvent paraître inadmissibles et dont l'État nous dit « c'est inadmissible », le but, à la fin, ce serait de réduire nos libertés. C'est une vision un peu paranoïaque, non, que vous avez ?
Eh bien, en fait, la vision, je ne sais pas si elle est paranoïaque. Encore une fois, les principales causes de mortalité et de morbidité sont très largement ignorées par l'État, hein, qui ne fait très peu de choses pour y remédier.
Donc ça, c'est le cancer, les maladies cardiovasculaires.
Absolument, et tous les problèmes de santé publique que les gens connaissent. Et il se trouve que les seuls problèmes, et il n'y en a pas 36, hein, il y en a 4, j'en ai cité 4. Hein. Faut bien voir quand même que ces 4 problèmes, encore une fois, occupent la plus grande partie du temps des forces de l'ordre et du système judiciaire de l'État. Hein, c'est quand même extraordinaire. S'il n'y avait pas ces problèmes-là, si l'État ne consacrait pas autant d'énergie à ces problèmes-là...
Parlez du Covid, bien entendu.
Bien sûr, du terrorisme, des accidents de la route et de la consommation de drogue. Et il se trouve que ces 4 problèmes-là, dans les 4 cas... Les mesures qui sont prises sont des mesures qui, pour l'essentiel, visent les individus. Donc, les contrôler, les surveiller, voire les réprimer. Et je veux dire, c'est pas un hasard. C'est-à-dire que, je veux dire, l'État a bien compris qu'encore une fois, les populations vont être de plus en plus remuantes. Et ça, ce sont de formidables prétextes, encore une fois, pour, eh ben, pour mettre en place un système répressif permettant de maintenir, autant que se faire se peut, l'ordre.
Si tant est que le terrorisme, c'est une question de sécurité nationale.
Terrorisme,
c'est pas de la santé.
C'est un formidable prétexte, mais on n'est pas dans la santé publique, en effet, au vu du nombre de morts. Oui.
2084, pourquoi l'État joue avec votre santé, c'est paru chez Humaine Science. Merci Pierre Menton. On
Merci
se retrouve juste après une pause avec le nouveau champion du monde d'échecs, Maxime Vachier-Lagrappe.
9h-10h, c'est arrivé demain.
Frédéric Taddeï sur Europe 1.
Il y a 3 championnats du monde d'échecs. Le plus connu, c'est le championnat du monde de parties classiques, où les parties durent en moyenne 3h30 par joueur. Il y a les championnats du monde de parties rapides, une demi-heure par joueur. Et enfin, il y a le championnat du monde de blitz. Chaque partie dure en moyenne 10 minutes, donc 5 minutes par joueur. Maxime Vachier-Lagrappe, bonjour.
Bonjour.
Vous venez d'être sacré champion du monde de blitz à Varsovie. Vous avez 31 ans. Vous êtes un grand joueur d'échecs. Hein. Vous êtes actuellement 10e joueur mondial, mais vous êtes monté jusqu'à la 2e place, juste derrière le champion du monde Magnus Carlsen. D'être champion du monde, ça fait quelque chose, non ?
Forcément. C'est le plus gros titre de ma carrière, évidemment. Je pense même que je me suis rendu compte a posteriori de l'importance de ce titre. De tout ce qui se déclenche autour. Mais clairement, quand je suis allé à ce championnat, mon objectif, c'était de décrocher un titre. Et à chaque fois que je joue ces championnats du monde rapide et blitz, je suis toujours très motivé.
Le blitz étant aujourd'hui le plus regardé, le plus suivi et le plus joué par les amateurs, est-ce que ça n'est pas devenu le plus prestigieux au fond ? On continue de vénérer le championnat du monde de parties classiques, mais c'est le blitz qui intéresse tout le monde.
Alors il y a quand même toute une tradition autour des parties longues, et ce qui fait que notamment pour tout ce qui est championnat du monde classique, le match est souvent bien regardé. Après, les championnats du monde rapide et blitz, dans la forme actuelle, c'est assez récent, ça a moins de 10 ans. Et clairement, le prestige de ces championnats a énormément monté, déjà du fait de la présence de tous les meilleurs joueurs, du fait également que, en général, ce sont les meilleurs joueurs du monde en partie longue qui sont également les plus forts sur les cadences plus rapides. Donc, clairement, c'est devenu une étape incontournable.
Non seulement vous avez détrôné Magnus Carlsen, qui le remportait depuis 3 ans, mais vous l'avez battu, Magnus Carlsen, le champion du monde de partie classique. Vous l'avez battu au cours d'une partie décisive. Est-ce que cela vous donne de la confiance pour le battre en partie longue et lui ravir enfin son titre ? Je l'ai dit, vous avez longtemps été 2e joueur mondial. Enfin, c'est lui le premier, quoi.
Oui, je l'ai déjà battu en partie longue. Après, le score en partie longue que j'ai contre lui n'est quand même défavorable. Donc, il y a beaucoup de travail devant moi et c'est sûr que je vais m'appuyer sur ce titre et sur la confiance que ça peut me procurer et également un peu la méfiance que ça peut apporter à mes adversaires pour capitaliser dessus sur l'année prochaine et les années qui viennent. Et évidemment, un autre de mes objectifs sur cette année prochaine, ce sera de remettre ce titre en jeu et pourquoi pas réaliser le doublé.
Maxime Vachier-Lagrappe, quelles sont les qualités particulières qu'il faut posséder pour gagner en blitz ?
Alors, les parties longues, il y a énormément de calculs. En fait, les échecs, c'est énormément de calculs. Et en partie longue, les calculs sont assez profonds sur des... Il faut rechercher vraiment la précision dans le calcul, mais sur des lignes qui peuvent aller jusqu'à 10-15 coups. Et ça demande de réaliser des réflexions, par exemple, de 30 minutes, 40 minutes sur un coup qui sont productives. Un blitz, à l'inverse, il va quand même falloir énormément se baser sur l'instinct, trouver les bons moments pour dépenser le peu de temps que j'ai à la pendule. Et donc, je vais plutôt calculer des séries de coups très rapides, de 3-4 coups, ce qui prend déjà un peu de temps, et essayer de jouer vite, de mettre la pression à l'adversaire, de combiner ma vitesse de calcul, en fait, plus que ma profondeur de calcul. Je peux me permettre aussi de prendre plus de risques, puisque une faute sera plus difficilement détectable par l'adversaire et que le peu de temps, les dernières, les derniers coups se jouent avec 2 secondes par coup, donc il y a à peine le temps de prendre une décision.
Au fond, c'est un peu la même différence qu'au tennis entre la terre battue, le gazon et le revêtement dur, en fait. C'est une vitesse une question de vitesse de coup.
Oui, il y a une question de vitesse de coup, bon, qui est encore plus accentuée. J'ai envie de dire, c'est également un peu la différence, évidemment, entre un 100 mètres et un marathon. Voilà, c'est pas le même type d'effort, en fait. Surtout que sur une partie longue se joue par jour. Alors que sur le championnat du monde de blitz, le premier jour, c'était 12 parties. Donc, il y a évidemment la répétition de l'effort, l'enchaînement. Il faut savoir également mettre en retrait ce qui s'est passé. Qui s'est passé avant dans la journée.
Maxime Vachier-Lagrave, Jean Castex, le Premier ministre, vous a félicité pour votre performance. C'est quelque chose qui n'arrive jamais. Je ne suis même pas sûr qu'il savait qu'il y avait un Français qui avait été numéro 2 mondial. Et la plupart des Français, je pense, ignorent que vous êtes champion du monde de blitz aujourd'hui. Néanmoins, ça doit faire plaisir.
Bien entendu, ça fait plaisir. Et déjà, ça s'inscrit quand même dans un mouvement de fond. Fait que les échecs sont beaucoup plus regardés en France, beaucoup plus suivis en France qu'il y a ne serait-ce que 5 ans. Alors, c'est évidemment c'est un peu mes résultats aussi qui ont aidé, mais principalement, je pense à Kevin Bordy, alias Blitzstream, qui stream énormément pendant le tournoi des candidats l'année dernière. Il y avait quand même 30-35 000 personnes qui suivaient ce tournoi. Il y a également l'arrivée d'Adrien Zafirouja sous le Code France. Et maintenant qu'il y a la nationalité française. Voilà, évidemment, la série Queen's Gambit. Donc tout ce mouvement.
La série Le Jeu de la Dame sur Netflix.
Oui, Le Jeu de la Dame.
Et puis le confinement aussi, parce que le confinement, fait que beaucoup de gens se sont mis aux échecs. On fait une pause, Maxime Vachier-Lagrave, et on se retrouve juste après. J'ai encore des questions à vous poser.
9h, 10h, c'est arrivé demain.
Avec Frédéric Taddeï sur Europe 1.
Nous sommes toujours avec Maxime Vachier-Lagrave, le nouveau champion du monde de blitz. Il est français, il a 31 ans et il vient de remporter le titre à Varsovie en battant Magnus Carlsen, le champion du monde. On s'imagine toujours que pour gagner aux échecs, pour être dans le top 10 mondial, il faut être très, très intelligent. On vous voit comme des ordinateurs, des gens qui calculent très vite. Est-ce que c'est votre cas ?
Alors, je calcule très vite, mais bon, malheureusement, je palide la comparaison avec l'ordinateur. Et en fait, oui, les ordinateurs nous défoncent aux échecs, nous battent. Et en fait, il n'y a pas d'autre mot, c'est qu'on ne peut plus leur prendre une nulle. Ça fait,
oui,
ça fait 15 ans que c'est devenu trop compliqué. Et par contre, je considère qu'il y a l'intelligence du joueur d'échecs, qui est une forme d'intelligence parmi beaucoup d'autres. Donc, pour être fort aux échecs, il n'est pas nécessaire d'être globalement intelligent, mais il faut cette intelligence inhérente au jeu d'échecs.
Donc, qui est faite de capacité de calcul, une grande mémoire, j'imagine, de la visualisation, de la logique.
Voilà, il y a beaucoup de visualisation dans l'espace, puisqu'il faut pouvoir partir sur des variantes qui peuvent durer un assez grand nombre de coups, 5-10 coups. Donc, il faut se représenter la position dans ces 10 coups, puisqu'on n'a pas le droit de toucher les pièces. Il y a évidemment la mémoire, mémoriser des parties, des ouvertures. Ça demandait énormément de travail de ce côté-là. Une bonne condition physique, une bonne préparation mentale, des bons nerfs et une certaine logique. Voilà, il faut créer sa propre logique de raisonnement pour pouvoir réaliser les bons calculs et ne pas se perdre en route.
La plupart des joueurs d'échecs au top niveau n'ont pas fait d'études. Est-ce que c'est votre cas ?
Alors, j'ai effectué une licence de mathématiques que j'ai faite à plein temps, même si je m'absentais parfois pour des tournois. Après, j'ai arrêté après les licences parce que ça devenait trop compliqué à conjuguer. D'autres joueurs à l'âge à laquelle j'ai fait ma licence et même avant, avaient en effet arrêté les études pour être pleinement concentrés sur le jeu. Donc après, j'ai envie de dire, ma progression a peut-être été un peu moins rapide justement à cette période-là. Mais ensuite, j'ai pu progresser plus longtemps une fois que j'ai arrêté mes études et que je me suis consacré vraiment à plein temps. Donc en fait, j'ai pris mon temps pour arriver au niveau où j'en suis.
Quand on gagne le championnat du monde d'échecs classiques, les parties longues, je crois qu'on gagne environ 1 200 000 $. Vous allez me dire si c'est
en
bien.
En tout cas, au dernier.
Au dernier, c'était ça, voilà. Ça a un peu augmenté. Quand on gagne le championnat du monde de blitz, est-ce qu'on gagne un peu sa vie quand même?
Oui, bah je gagne de toute façon de manière générale confortablement de ma vie depuis pas mal d'années, depuis que je suis pleinement professionnel en fait. Et donc là, par exemple, le championnat du monde de blitz, c'est... Alors, comme j'ai partagé le premier prix qui est de 60 000 $, j'ai remporté 50 000 $.
Et pour le championnat du monde classique, alors, quand est votre prochaine échéance?
Alors, je vais jouer les Grands Prix FIDE, qui est une série de 3 tournois qui vont apporter les 2 dernières places qualificatives pour le fameux tournoi des candidats. Donc, ce tournoi des candidats, c'est 8 joueurs. Il y a déjà 6 joueurs qui sont qualifiés. Et le vainqueur de ce tournoi des candidats, donc... dont je peux espérer faire partie si je joue bien dans les prochains mois, remporte le droit de jouer le match pour le titre contre le champion du monde.
Est-ce que vous vous entraînez comme un footballeur ou comme un tennisman?
Donc ça va être entre 3 et 6 heures par jour d'échecs, et auquel il faut ajouter évidemment un peu de préparation sportive, donc où là je tourne autour des 5 heures par semaine, ce qui n'est pas énorme. Également des séances de préparation mentale et hebdomadaire.
Dernière question, Maxime Vachier-Lagrave. Qu'est-ce que vous faites quand vous ne jouez pas aux échecs?
Alors, j'ai pas mal de hobbies au final. Donc, déjà, j'aime beaucoup regarder du sport, en faire également de temps en temps. Je regardais des séries de manière générale. Et puis, quand je suis à Paris, j'essaye de sortir pas mal, de marcher, de m'aérer l'esprit, surtout entre 2 séances sur ordinateur. C'est plutôt agréable.
Merci Maxime Vachier-Lagrave et encore toutes mes félicitations pour votre titre champion du monde de blitz. C'était à Varsovie il y a quelques jours. Merci d'avoir été sur Europe 1. On fait une pause, on se retrouve dans un instant avec Géraldine Maillet qui publie un roman sur une histoire d'amour entre Ava Gardner et Françoise Sack.
9h-10h, c'est arrivé demain.
Frédéric Taddeï sur Europe 1.
Bonjour Géraldine Maillet.
Bonjour Frédéric.
Vous publiez Fran et Ava chez Fayard. Vous vous y mettez à la place d'Ava Gardner pour raconter l'histoire d'amour qu'elle aurait eue avec Françoise Sagan au cours de son séjour d'un mois à Paris pendant l'hiver 67. C'est vrai qu'elles se sont fréquentées pendant le tournage de Meyerling, mais qu'est-ce qui vous fait penser qu'il y a eu davantage qu'une amitié? Pourquoi pas imaginer à ce compte-là une histoire d'amour entre Jean-Paul Belmondo et Alain Delon pendant le tournage de Borsalino?
Ça, ce sera le prochain. En fait, au départ, c'est le point de départ, c'est le texte qu'a écrit Françoise Sagan suite à la mort de Ava Gardner.
Donc en 1990, hein, si je me souviens bien.
Absolument, qui est édité par le magazine Elle. Et quand je lis ce texte lors de ce premier confinement de mars 2020, pour moi, le texte est implacable. C'est-à-dire que je vois à travers les lignes de Françoise Sagan qu'il y a eu une histoire entre Ava Gardner et Françoise Sagan. Elle parle d'après-midi oisive, de longues soirées, de fous rires, d'un mois où elles se sont fréquentées de nombreuses fois éperdument. Et à travers les lignes de Françoise Sagan et la prose plutôt minimaliste d'habitude de Françoise Sagan, je découvre, moi, en tout cas dans mon imagination d'auteur, les bribes et en tout cas les traces d'une histoire d'amour.
Le texte est d'ailleurs reproduit au début de votre roman, hein, donc chaque lecteur peut voir s'il y voit lui aussi ce que vous y avez vu. C'est devenu une spécialité chez les romanciers français d'écrire des biographies romancées, des docu-fictions où ils se mettent à la place de gens célèbres. Vous l'aviez déjà fait dans Splendour, vous imaginez les dernières minutes de l'actrice Nathalie Wood en train de se noyer. Vous l'avez refait dans Un monde sans pitié sur une mannequin. Pourquoi préférez-vous ça à inventer des histoires ou à raconter votre propre vie? Parce que c'est aussi ça la mode, sinon.
Mais je pense qu'à travers les histoires vraies, on raconte aussi sa propre vie. C'est-à-dire que moi, quand je lis le texte de Françoise Sagan, j'y trouve aussi des traces de moi, ce qui peut me plaire dans une histoire d'amour, dans l'universalité de ces histoires d'amour, de la rencontre de Françoise Sagan avec cette femme, donc Ava Gardner, qui est mythique, qui est une star hollywoodienne, qui en même temps, sur la pente douce du déclin de sa carrière. Et moi, en tant que femme de 50 ans, c'est aussi des thèmes moi, qui vont me plaire. C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait que du jour au lendemain, on n'est plus à la mode, on n'est plus désiré, le téléphone ne sonne plus, alors qu'elle, Françoise Sagan, est au contraire au climax, à l'apogée de...
Elle est plus jeune aussi.
Elles ont à peu près 15 ans d'écart. Et effectivement, moi, à partir de ce moment-là, je plonge avec ravissement et avec délectation dans cette histoire parce que je suis sûre qu'en 1967, il y a trop d'éléments étranges, en fait. C'est-à-dire que normalement, François Sagan va voir Catherine Deneuve dans ses studios de Boulogne-Billancourt parce qu'elle tourne Meyerling, elle est la jeune première. Bah, elle tombe sur Ava Gardner, qui, elle, est fascinée par la beauté de Catherine Deneuve. Donc, elles vont se voir, elles ont les mêmes addictions. Elles aiment l'alcool, elles aiment la nuit, elles aiment danser, elles aiment les amis, elles aiment les bandes. Donc, elles ont trop de points communs et en même temps, elles n'ont rien en commun. Elles ont toutes les deux la gloire. L'une, finalement, a tout fait pour l'éviter et l'autre, ça lui a un peu tombé dessus, comme François Sagan, comme un coup de grisou. Donc, elles sont faites du même métal et pourtant, elles sont opposées. Il y en a une qui est sublime et l'autre qui est complexée, François Sagan. Il y en a une qui a été photographiée par la Terre entière et qui est désirée par tous les hommes de la planète, Ava Gardner. Peut-être moins quand elle rencontre François Sagan. Et François Sagan, elle, est plus complexée. Elle se compare à une sorte d'oiseau mazouté. Donc voilà, elles n'ont rien en commun et pourtant elles ont tout en commun et elles ont eu ce mois ensemble absolument dingue.
Mais on sait que François Sagan a eu des aventures avec des femmes et une en particulier a beaucoup compté pour elle. Elles sont enterrées d'ailleurs dans le même caveau.
Peggy Roche, absolument.
Peggy Roche, même s'il n'y a pas le nom de Peggy Roche sur le caveau. Donc elle ne l'assumait peut-être pas autant que ça. Mais Ava Gardner ?
Ava Gardner aussi. Et c'était aussi sa grande modernité. Alors effectivement, le Hollywood des années 50 ne le disait pas, mais on lui prêtait une aventure avec Lana Turner, ce qui rendait fou d'ailleurs son ex-mari Frank Sinatra. On lui a prêté aussi une sorte de, et on le lit dans ses bios, elle a une sorte de frémissement homosexuel avec Betty Grable, qui était une sorte de pin-up des années 30. Donc oui, il y a chez ces deux femmes aussi une sorte de bisexualité qui est très à la mode aujourd'hui, mais qui était à l'époque beaucoup plus, on va dire, avant-garde et beaucoup plus cachée.
Admettons qu'elles ont eu cette histoire d'amour.
Je suis sûre que vous y croyez.
Passons. Mais admettons qu'elle l'ait eu. Il vous faut quand même les prendre en otage pour la raconter, si vous voulez. Pourquoi ne pas plutôt raconter une histoire d'amour entre une actrice et une romancière, ou pour que ça fasse plus vrai ou plus vécu, entre Géraldine Maillet et une actrice américaine de passage à Paris?
Mais parce qu'en fait, moi, j'aime en fait partir d'un sorte de... J'ai des faisceaux de preuves, c'est-à-dire que d'abord, j'aime les environnements historiques qui ne sont pas les miens. Donc j'aime me plonger dans le Paris des années, par exemple, 69. Je trouve que c'est passionnant l'environnement où ces gens-là sortent à ce moment-là. Trouver que ces gens-là connaissent les mêmes personnes, aiment les mêmes choses, lisent les mêmes livres, écoutent les mêmes musiques, ont vu les mêmes films... Voilà, j'aime inventer ça. Je trouve que j'aime la documentation, j'aime contextualiser, et je trouve que c'est quand même beaucoup plus intéressant d'imaginer une histoire d'amour entre Ava Gardner et François Sagan qu'entre moi et une actrice américaine.
Mais un personnage inventé, on peut lui faire faire ce qu'on veut, on peut lui faire dire ce qu'on veut. Ava Gardner, tout comme François Sagan, c'est pas n'importe qui, c'est danger, explosif, à manier avec soin. À la moindre erreur, vous perdez le lecteur. Il crie à l'imposture.
Mais vous avez raison. Et d'ailleurs, ça a été un vrai point de départ de l'écriture. C'est-à-dire, je me suis dit, moi, en tant que Géraldine Maillet, romancière non culte comme François Sagan, je ne pouvais pas me permettre de parler à la place de François Sagan. Et donc, je me suis mise tout naturellement dans la peau d'Ava Gardner.
Elle, vous pouvez parler à la place d'Ava Gardner, qui était adulée par le monde entier.
Non, parce que déjà, elle était déjà plus âgée. Donc, je suis plus près de l'âge d'Ava Gardner que de celui de François Sagan. Elle n'est pas romancière, elle n'a pas écrit des dizaines de romans cultes et lus dans le monde entier. Et donc, je trouvais que c'était plus confortable d'être dans la peau de Ava Gardner et de faire parler François Sagan en contrepoint. D'ailleurs, quand je fais parler François Sagan, il y a des phrases à moi et il y a aussi des phrases que j'emprunte à son répertoire. Et tout ça se chevauche comme une sorte de vertige, parce que j'ai l'impression, dans mon livre, et j'espère que c'est réussi, en fait, c'est un monologue. C'est Ava Gardner qui se parle à elle-même. Elle est dans cet aéroport, puisque dans le texte inaugural, donc François Sagan écrit, elle dit qu'elles se sont vues pendant un mois énormément à Paris, et puis qu'elles se sont revues après dans un aéroport de nombreuses années après, qu'elles se sont vues, qu'elles se sont souries, qu'elles se sont épiées, mais qu'elles ne se sont pas parlé. Et en fait, c'est ça le point de départ du livre. Elles sont à Heathrow. Ava Gardner voit, croit voir, imagine voir, fantasme voir, en tout cas la voit. Voit François Sagan, et là, elle raconte cette histoire d'amour.
Mais justement, son langage à Ava Gardner, parce que vous la faites parler pendant 150 pages.
Oui.
Comment vous reconstituez, comment vous imaginez le langage d'Ava Gardner ?
Alors, d'abord,
elle n'avait pas sa langue dans sa poche, on le sait. Il y a des citations d'Ava Gardner qui sont formidables. Pas forcément juste, d'ailleurs, peut-être apocryphe, mais...
Alors, je vois tous ses films, je lis toutes ses bios, j'ai j'écoute les mêmes les chansons d'Alain Souchon, je vois même les documentaires de Xavier Giannoli qui essaie d'interviewer à l'époque Amalric, je crois, une Ava Gardner vieillissante qui se cache.
Oui, elle est dans son appartement à Londres, voilà. Elle ne veut pas qu'on la voie.
Je suis un buvard, je suis une éponge et petit à petit j'essaie de ressortir ce que pourrait être la prose de Ava Gardner qui est complètement rock et moderne.
Et comment fait-elle l'amour? Parce qu'à un moment dans votre livre, elle se vante d'avoir fait jouir Françoise Sagan.
Oui.
Et on se dit qu'elle a dû en faire jouir d'autres.
Ava Gardner?
Oui, j'imagine.
Ah, mais... j'imagine qu'elle a fait jouir tous les hommes et toutes les femmes qui sont passés entre ses mains, dans sa bouche et partout.
Mais pourquoi aurait-elle à ce point, pourquoi serait-elle à ce point fière de ce qu'elle serait parvenue à vivre avec, avec Françoise Sagan? Comment l'expliquez-vous?
Mais c'est parce qu'en fait, c'est une femme qui avait très peu confiance en elle. Elle vient de Caroline du Nord, elle est très complexée par son accent. Elle estime qu'elle est toujours illégitime en tant que star du cinéma adulée par le monde entier. Elle estime qu'elle n'a pas non plus une carrière extraordinaire. Elle est nommée aux Oscars, elle ne l'a jamais. Donc elle nourrit à la fois une sorte de complexe d'infériorité et de complexe de supériorité. Et finalement, elle a été aussi très dépréciée par son deuxième mari, Artichaut, qui était un grand intellectuel, qui lui a toujours dit qu'elle était stupide. Elle s'était même fait tester son QI tellement elle était complexée. Et donc finalement, Françoise Sagan, c'est le Graal. Pour elle, c'est à la fois l'intelligence, le raffinement, l'esprit.
Elle était copine avec Hemingway quand même. Hein.
Oui, elle était copine. En fait, elle était copine avec plein de gens, mais elle nourrissait malgré tout un complexe. Elle lisait des livres et à chaque fois, Artichaut, son deuxième mari, lui disait « Oui, mais est-ce que tu les as vraiment compris? T'as pas de conversation ?» et tout ça. Donc, elle avait ce complexe aussi. Et je pense que Françoise Sagan, elle, qui était beaucoup plus libre, qui avait beaucoup moins de complexe, qui à la fois lisait tout et était entourée de non-intellectuels. C'était un mélange entre Massimo Gardia, Jacques Chazot, Juliette Gréco et des grands écrivains et Sartre, tout ça. Donc voilà, donc c'était, je pense que c'est très gratifiant et valorisant pour Ava Gardner.
Ah oui, et au point de la suivre à la trace ensuite, de collectionner les articles de journaux qui parlent d'elle, elle a l'air, vous en avez fait quelqu'un qui est tombé réellement amoureuse.
Pour moi, elle était redingue, obsessionnelle. Ça a été la femme de sa vie, de la même manière que Frank Sinatra, et d'ailleurs ils ont les mêmes initiales, FS, a été l'homme de sa vie. Merci. Une addiction.
Merci Géraldine Maillet.
Merci Frédéric Taddeï.
Ce roman s'intitule Fran et Ava, il vient de paraître chez Fayard.
Europe 1.
C'est arrivé demain est terminé. On se retrouve samedi prochain. Dans quelques instants, ce sera le grand rendez-vous Europe 1 CNews, Les Échos, présenté par Sonia Mabrouk. Bonjour Sonia, qui est votre invitée?
Bonjour à vous Frédéric. Notre invité pour le grand rendez-vous sera le député LR Guillaume Pelletier. Et pour l'interroger, je serai entourée de Nicolas Barré et de Mathieu Boccoté.
Bonne émission.
Europe 1.